Bienvenue sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Il est 19h passé de 11 secondes. Vous écoutez Sine qua non.
Sine qua non, le rendez-vous cinéma de Radio Campus Paris. Un vendredi par mois à 20h sur le 93.9 FM.
Bonsoir et bienvenue dans Sine qua non, l'émission de cinéma de Radio Campus Paris qui vous fait découvrir chaque mois l'œuvre d'une ou d'un cinéaste à l'occasion d'une rétrospective ayant eu lieu récemment ou étant en cours à Paris et en Ile-de-France. Pour ce déjà 7e épisode, nous allons vous parler des éditions 2025, des festivals de cinéma de Cannes et de Bologne auxquels l'équipe de Sine qua non s'est rendue. Avant de revenir sur ces deux festivals, nous allons commencer par une nouvelle édition de la chronique de David, qui portera sur la rétrospective France Borzaghi à la Fondation Jérôme Sédoupaté, avant que Juliette revienne sur la très belle rétrospective Edward Yang de cet été. Je suis Grégoire et j'ai donc le plaisir d'être accompagné pour ce beau programme par Juliette. Bonsoir Juliette.
Bonsoir Grégoire, bonsoir à toutes et tous.
Par David, bonsoir David.
Bonsoir Grégoire, bonsoir à tous et toutes.
Et par Suzanne qui réalise l'émission. Bonsoir Suzanne.
Bonsoir, salut.
Alors c'est parti pour ce beau programme, n'attendons plus, Sine qua non, c'est reparti.
La chronique de David.
Good morning.
You don't have to tell me what day this is.
No.
The Herr Professor's birthday. Look at all the mail, twice as much as last year.
My goodness, yes, and this is just the beginning.
Yeah. Oh, give him my best respects, will you?
I will, Herman.
Yeah. Good
I
morning.
Will.
Good morning.
Nous venons d'écouter un extrait de The Mortal Storm, un film de 1940 de Frank Borzaghi, un très grand réalisateur américain de l'Hollywood classique, qui a eu une longue carrière. Donc aujourd'hui, dans le cadre de la chronique Cap sur le 13e arrondissement, où la Fondation Jérôme Sédoupaté nous offre une des meilleures rétrospectives de la rentrée culturelle, à savoir que du 3 septembre au 7 octobre, elle consacre une rétrospective exceptionnelle à l'un des maîtres oubliés du cinéma muet, Frank Borzaghi. Comme je disais, réalisateur prolifique de l'Hollywood classique, mais légèrement oublié aujourd'hui peut-être par rapport à des gens comme Fritz Lang ou Ernst Lubitsch. Jusqu'à l'avènement du parlant en 1930, il était pourtant très célèbre, célébré, et certains de ses films considérés comme des canons du genre cinématographique. Pour revenir sur sa carrière, on peut noter qu'après une vie d'aventurier à l'image de plusieurs pionniers d'Hollywood, il commence à réaliser des films à la fin de la Première Guerre mondiale, et connaît un premier succès avec Humoresque en 1920, qui sera diffusé demain samedi 27 septembre à la Fondation. En 1927, il réalise un film qui restera considéré comme son chef-d'œuvre, L'Heure Suprême, Seventh Heaven en anglais, mélodrame amoureux dans un Paris recréé en studio entre un balayeur et une sans-abri dans les années 1910 à Paris. C'est un couple de déshérités qui ensemble résistent aux horreurs du monde comme le froid, la faim, la méchanceté et évidemment la Première Guerre mondiale. Et c'est peut-être dans ces thèmes que réside la particularité et le génie de Borzaghi. Il filme l'amour et le mélodrame comme personne, à savoir que dans ses films, l'amour a la particularité d'être une forme de résistance ou de rage de vivre. On voit qu'il sublime l'amour, il sublime les humbles, les rêveurs, les parias, et en utilisant les moyens poétiques du cinéma. La qualité lyrique des images de Borzaghi, elle réside dans ses éclairages doux, des flous artistiques, des compositions soignées, des très beaux, très jolis décors qui, on le voit, sont faux, mais qui sont très beaux. Et tout ça crée une atmosphère onirique. Il a une utilisation fine de la symbolique des décors du studio. Sa carrière ne s'arrête pas avec la fin du muet. Au contraire, il réalise plusieurs chefs-d'œuvre au début des années 30, notamment dans la période de grande liberté morale qu'il y a à Hollywood entre 1930 et 1933. On peut citer notamment Bad Girl et Ceux de la Zone, Man's Castle. Ce dernier film, du coup, avec Spencer Tracy et Loretta Young, sur un couple encore drôlement accordé dans un bidonville de New York. Avec notamment le blanc du noir et blanc qui scintille comme des étoiles, comme on le faisait très joliment dans les années 30. Il a continué de réaliser des films jusqu'à sa mort en 62, avec plus ou moins de réussite et de budget, parce qu'en réalité, dès les années 40, son style romantique et idéaliste commence à paraître dépassé face à l'évolution du cinéma vers des formes plus réalistes ou plus sombres, comme ce qu'on a vu apparaître les films noirs à la fin des années 40 ou le néo-réalisme en Europe. Il réalise encore quelques films marquants, comme Moonrise en 1948, un drame psychologique salué pour sa noirceur et sa beauté formelle. Donc il arrive à s'adapter aux standards contemporains en faisant de la beauté formelle quand même. Et ce film est souvent considéré comme son dernier chef-d'œuvre. Il reste une figure respectée, admirée par des cinéastes comme Samuel Fuller, Joseph von Sternberg, Marcel Carné, Sergei Eisenstein, d'autres gens qu'il plaçait parmi les plus grands cinéastes américains. Un petit détail technique encore, c'est que les séances sont souvent en copie 35 mm issues de diverses collections, notamment venues des États-Unis, et sont accompagnées systématiquement quand il s'agit de films muets de ciné-concerts avec des pianistes issus de la classe d'improvisation de Jean-François Zigel pour redonner vie à ces chefs-d'œuvre muets dans leur écrin musical originel. Donc courez-y, ça dure encore une dizaine de jours et c'est une des super belles choses à voir pour cette rentrée à Paris.
Et donc les films parlants font aussi partie de la rétrospective ?
Alors il y a une petite sélection de ses plus grands chefs-d'œuvre parlants, okay. Notamment The Mortal Storm, dont on vient d'écouter un extrait, mais la Fondation Pathé, qui se spécialise dans le muet, il y a quasiment, enfin la plupart de ses films muets qui y sont, et quelques chefs-d'œuvre du parlant.
Ok, entendu. Bah, merci beaucoup David, ça donne très envie. Et à propos de rétrospective, on va maintenant t'écouter Juliette, pour revenir sur une aussi très jolie rétrospective qui a eu lieu cet été.
Merci Grégoire. Et oui, je vais vous parler rapidement de la rétrospective du réalisateur taïwanais Edouard Yang, qui a donc eu lieu du 9 au 17 juillet à la Cinémathèque française, et qui ensuite a essaimé dans les salles parisiennes et ailleurs en France, puisque en fait, la rétrospective, elle accompagnait la ressortie du dernier film, du dernier long métrage d'Edouard Yang, Yi Yi, qui est sorti en 2000, et également deux autres ressorties par le même distributeur, donc Carlotta Film, Mahjong et Confusion chez Confucius. Donc la Cinémathèque en a profité pour remettre tous ces films dans une seule rétrospective, donc qui est composée de 8 films, dont un film collectif. Et la Cinémathèque a aussi rajouté un film réalisé par son contemporain et ami Hu Xiaoxian, dans lequel Edouard Yang est acteur. Moi, j'ai eu l'occasion de découvrir Yi Yi à Cannes, comme vous l'entendrez ensuite dans les extraits, et il était présenté donc à Cannes Classics, la section des films de patrimoine de Cannes. Et il était aussi ensuite présenté à Bologne, puis à une rétrospective au Festival de La Rochelle, avant d'arriver à Paris. Donc, pour revenir à Edouard Yang, c'est donc un réalisateur taïwanais né à Shanghai en 1947 et mort en 2007 à Beverly Hills, aux États-Unis. Il est donc mort à 59 ans, ce qui est assez jeune, et d'une foudroyante maladie. C'est une figure de ce qu'on appelle la nouvelle vague taïwanaise, dont j'en parlais avant, Hu Xiaoxian et son contemporain. Et cette nouvelle vague, elle se caractérise chez Edouard Yang par des films souvent très vastes, donc vastes dans tous les sens du terme, parce que beaucoup d'entre eux sont assez longs, allant jusqu'à quasiment 4 heures pour son chef-d'œuvre A Brighter Summer Day, qui est sorti en 1991. Mais ce sont aussi des films vastes par leurs histoires, qui sont souvent ramenés soit à des vies entières, soit à des tranches de vie, ou des vies sur plusieurs générations. Et enfin, vastes parce que Yang, lui, s'est fait spécialiste d'observer la société contemporaine taïwanaise, et en particulier la ville de Taipei, et son évolution, notamment urbanistique. Il y a dans plusieurs de ses films, on voit la ville en train de se construire avec des grands buildings, mais aussi son occidentalisation. Il y a énormément de signes de l'occidentalisation de Taipei, avec plein de marques américaines. Dans un des films, on les voit, le Hard Rock Café est un lieu important en fait, où les personnages se retrouvent. Et il y a aussi un mélange, un mélange de langues avec l'arrivée d'occidentaux, notamment Virginie Ledoyen qui joue dans Mahjong. Mais il y a aussi d'autres langues qui sont parlées. Et dans ce film en particulier, il y a beaucoup de mélanges de langues étrangères. Enfin, vous verrez si vous allez les voir. Et pour finir, si jamais vous en avez envie, Yi Yi, donc qui est le film au cœur de cette rétrospective, on va dire, parce que c'est la ressortie patrimoine qui a lancé cette rétrospective, entre guillemets, est encore en salle à Paris, dans deux cinémas, le Lucernaire et le Chaplin Saint-Lambert.
Ouais, Yi Yi que donc pour ma part j'ai découvert au Festival de Bologne, donc c'est vraiment en cohérence avec l'émission qu'on ait respectivement découvert ce film à Cannes et à Bologne, et ensuite la rétrospective Yang. Voilà, tout ce que tu as dit était très juste, j'ai adoré découvrir tous ces films. Et donc on va pouvoir passer à la suite et discuter des deux festivals, et pour en discuter on va vous diffuser des reportages
Juliette était allée à Cannes, David et moi sommes allés à Bologne. On a enregistré sur place différentes choses, qu'on va vous laisser écouter tout de suite. Pour le reste, on se retrouve le vendredi 24 octobre à 19h pour parler de la rétrospective Orson Welles qui aura lieu d'ici là à la Cinémathèque française. Et voilà, ça nous fait plaisir de vous retrouver. Il nous tarde la suite.
Sine qua non, le rendez-vous cinéma de Radio Campus Paris. Un vendredi par mois à 20h sur le 93.9 FM.
Les fils de dernière minute sont utiles puisque hier, donc mon troisième jour, je n'avais aucun ticket et j'ai fait deux fils de dernière minute pour la sélection Cannes Classics et j'ai réussi à entrer dans la salle.
Ok, attends, je sais pas quoi dire.
Bonjour, je m'appelle Pierre, je suis réalisateur.
Ça marche ? Juste un petit peu ce que je dis. Alors les deux procureurs, qu'est-ce que je vais dire sur les deux procureurs ?
Je suis pas inspiré.
Alors la petite dernière en sélection officielle de AZRZ. Moi j'ai beaucoup aimé le coming of age lesbien d'une jeune adolescente de banlieue parce que je l'ai trouvé très juste et très touchant jusqu'à la scène de fin qui m'a énormément émue sur tout ce qui n'est pas dit mais ce que voilà, les parents peuvent comprendre quand leurs enfants grandissent.
J'ai vu le film Enzo hier à l'ouverture de la quinzaine de Laurent Cantet réalisé par Romain Campillo et j'ai beaucoup aimé ce film, je l'ai trouvé assez rafraîchissant. Donc le personnage principal c'est un ado de 16 ans assez privilégié mais un peu paumé qui se met un peu en contradiction avec sa famille et il est un peu bête comme on peut l'être à 16 ans mais du coup c'est touchant et oui donc ça m'a amusé et ça m'a touché donc je recommande ce film aussi. C'était très touchant de voir l'équipe et le réalisateur parler de comment le film s'est fait, de la poursuite du film après le décès de Laurent Cantet. Donc pour toutes ces raisons je vous invite à aller le voir.
Grosse recommandation de procureur de Sergueï Lolitsa pour la photo. Vraiment, c'est le plus gros point. C'est une image qui est parfaitement composée. Il n'y a rien qui décale. Chaque plan est vraiment une photo à part entière. Donc, pour la beauté de l'image, je conseillerais. La beauté, ou plutôt la... l'exactitude du récit. On n'est pas dans un... C'est une fiction très réaliste finalement où les plans épousent le récit. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'issue vraiment possible et le film ne s'en cache pas. Il n'essaie pas de nous vendre une histoire...
J'ai eu la chance de découvrir hier soir le dernier film de Sophie Le Tourneur, qui était donc l'ouverture de l'acide hier soir. Sophie Le Tourneur, une réalisatrice française qui s'est spécialisée dans une écriture assez particulière, qui est à la jonction du documentaire et de la fiction, puisqu'en fait, elle s'enregistre et elle enregistre ses proches. Elle enregistre leur vie, enfin eux qui racontent des événements passés, donc et c'est des événements très quotidiens en fait. C'est des vacances, c'est un festival de cinéma, plein de choses. Et dernièrement, elle s'est intéressée donc aux vacances en famille et elle a d'abord fait Voyage en Italie, qui était sorti en 2023 avec Philippe Catherine. Et là, c'est en fait, elle raconte un voyage juste en amoureux. Et L'Aventura, que j'ai vu donc hier, là, c'est un peu une suite, puisqu'il y a toujours Philippe Catherine dans le rôle de son mari, mais avec des enfants. Et cette manière de, d'écrire et de réaliser ces films, en fait, c'est pas seulement qu'on sait qu'elle s'inspire de faits réels pour ensuite créer des films, mais c'est qu'elle le met. Elle met aussi ce processus d'enregistrement du souvenir en scène. Donc on voit les personnages, dont elle, pour L'Aventura, Voyage en Italie et Les Coquillettes, en train de s'enregistrer et de raconter ces souvenirs-là. Et ça s'entremêle des événements qui se sont réellement produits, mais du coup qui sont rejoués pour le film. Donc ça crée un film à la jonction du documentaire et de la fiction. Et c'est des films très collés au réel et où on peut que invariablement se retrouver, puisqu'en fait c'est des personnes proches, là une famille, pour d'autres films des amis, qui se rappellent des événements et qui se disent attends, mais là on a fait ça, et puis c'était dans quel ordre, qu'est-ce qui s'est passé après ça, où est-ce qu'on est allé après ça, qu'est-ce qu'a fait machin, qu'est-ce qu'a fait maman, qu'est-ce qu'a fait papa, tout ça. Et c'est elle a une manière de retrouver ces souvenirs-là, et elle les filme, elle les met en scène de manière très juste.
La petite dernière en compétition officielle, et c'était vraiment incroyable. Afzia Herzi qui confirme son talent après Bonne Mère, vraiment une direction d'acteur, une douceur dans les plans, dans les sentiments et dans la retenue, vraiment une grande performance de la réalisatrice et de toutes ses actrices, avec un sujet parfaitement maîtrisé et vraiment un film magnifique.
La petite dernière, sélection officielle, un film qui était très fort, avec une héroïne qu'on voit pas souvent. C'est des personnes qu'on croise mais qu'on voit jamais au cinéma, du coup c'était génial. Et l'actrice crève l'écran, et Afzia a réussi à capter la délicatesse de ce que c'est de faire son coming out, et de ce que c'est d'être lesbienne, et la finesse des relations intrafamiliales. Vraiment, c'était un très beau film.
Alors, Eddington, compétition. Malgré un vrai sentiment de confusion et de trop-plein, sans doute lié à un sujet trop ambitieux, à plusieurs sujets trop ambitieux, moi j'avoue un peu avoir apprécié la richesse des intrigues, et notamment je trouve que le déploiement de la rivalité entre le personnage de Joaquin Phoenix et celui de Pedro Pascal, dans un cadre politique et social très chargé, fonctionne très bien. Et le film s'appelle Eddington, et c'est une bonne chose car il nous retranscrit très bien ce qu'est une, enfin, la vision, ça correspond très bien à la vision que j'ai d'une ville fantôme façon western trumpiste sous Covid. Il y a un vrai sens de la géographie et des lieux, et ça permet à toutes les relations entre les personnages de fonctionner encore mieux, car on sent que c'est concret et que tous ces personnages agissent ainsi parce qu'ils sont dans un cadre très structurant et très fort. Donc voilà pourquoi j'ai apprécié, malgré quelques lourdeurs, de la confusion, des dialogues qui ne sont pas toujours bien écrits. Ça reste un film très divertissant et très bien tenu.
À un certain regard, La misteriosa mirada del flamenco. Alors ça, grosse surprise, j'y suis allée sans aucune attente, et sûrement un petit peu à reculons. Je me disais que c'était un film à voir, mais en même temps, je sais pas, ça ne me tentait pas énormément, je sais pas pourquoi. Première partie de film un peu étrange, on a du mal un petit peu à comprendre. Je conseille d'y aller sans lire le synopsis, d'y aller vraiment en toute innocence concernant le récit. Et c'est très bien écrit, en fait. On arrive après tout un voyage un peu métaphorique, les choses prennent du sens et on les nomme telles quelles, et c'est ce qui fait la force du récit, c'est ce qui fait sa force et sa puissance, la puissance du message qui est porté.
J'ai réussi à voir Yi Yi
d'Edward Yang. C'était un très beau film. Il y a notamment une scène très belle où en fait, donc, la grand-mère est dans le coma et il la garde à la maison et les infirmiers et infirmières leur disent que malgré le fait qu'elle soit dans le coma, il faut continuer à lui parler, que ça peut être bénéfique pour elle. Et donc le père commence en disant « Mais qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'intéressant à te raconter ? Parce que notre quotidien, ben, c'est une vie que tu as déjà vécue, enfin, c'est une vie que tu connais, donc c'est pas, tu vas pas découvrir des choses. » Et en fait, finalement, la seule chose intéressante, c'est d'en arriver à ces conclusions-là de ben, « Maintenant, qu'est-ce qu'on tire de ce regard rétrospectif sur ce qu'on a accompli, entre guillemets, et ce qui nous reste ?» Et le film est égrené de ses réflexions sur le temps, puisqu'il y a des parallèles qui se créent avec ce père qui retrouve un amour de jeunesse et sa fille qui vit son premier amour, son fils qui découvre ses, même pas son premier amour parce qu'il a 7 ans, 8 ans maximum, et donc c'est son premier émoi, on va dire. On voit toutes ces générations qui s'entremêlent et les choses ont l'air de se répéter, mais elles ne se répètent pas réellement parce qu'en fait, le personnage du père le dit à un moment, ce sont des choses qui sont arrivées et qui vont continuer à arriver. Là, en l'occurrence, la rencontre du premier amour, mais c'est pas à la même époque et c'est pas dans la même ville et ce n'est pas au même moment, donc ce ne sont pas les mêmes choses. Mais il y a un fond et l'importance des aînés aussi est cruciale puisque finalement ce sont avec eux qu'il faut continuer à parler, notamment à parler avec la grand-mère, même si elle ne peut pas répondre, mais à continuer à réfléchir à ce temps et à ses choix de vie. Voilà.
Mon film preferito del festival è La Clepsydra, è un film polonese.
Mon film preferito del festival è Avalanche di Mikkonause, un film giapponese del 1937.
À tous, ciao à tutti. On est à Bologne avec David depuis quelques jours maintenant pour le festival. Il fait très chaud et c'est avec plaisir qu'on s'enregistre pour vous donner de nos nouvelles. On va commencer par vous présenter tranquillement le festival. Donc, pour rappel, on est au cinéma Ritrovato à Bologne, qui est un festival qui a lieu chaque année depuis quelle année déjà, David ?
1986.
C'est donc la combientième édition ?
La 39e, Grégoire.
39e déjà. Et festival de vieux films, notamment en bonne partie des films qui ont été restaurés dans la ville, puisqu'il y a un des grands centres de restauration de films en Europe qui se trouve à Bologne. Et donc, pour vous présenter le festival, on va revenir sur les différentes catégories, les différentes rétrospectives qu'il y a déjà, pour vous donner un peu un ordre d'idée. Est-ce qu'il y a des rétrospectives dont tu as particulièrement envie de nous parler, David ?
Oui, tout à fait, je peux vous faire un panorama rapide de ce qui peut être intéressant. C'est que globalement, c'est un festival qui a lieu dans 5 à 7 salles, en fonction de 5 à 7 lieux dans la ville. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, avec des séances entre 9h du matin et 22h le soir, voire minuit parfois. Globalement, les sections, il y a toujours des sections classiques qui sont la section d'un ou d'une réalisatrice américain de l'âge classique hollywoodien entre les années 20 et les années 50. Également, il y a des sections thématiques, par exemple Cento anni fa, il y a 100 ans, avec donc des films d'il y a 100 ans de 1925, donc une sélection de grands classiques et de films inconnus de 1925. Beaucoup de films muets des années 1905, évidemment aussi 1904, enfin voilà, des films pâtés, des films lumière, des petites merveilles. Il y a quand même aussi pas mal d'autres choses, comme des rétrospectives de réalisateurs ou réalisatrices italiens. Cette année, c'est Luigi Comencini qui est un réalisateur pareil de l'âge d'or italien. Vraiment, on parle beaucoup d'âge d'or, mais il n'y a pas que ça. Des rétrospectives thématiques sur notamment une rétrospective qui revient tous les ans, c'est le Cinéma Libéraux, pour tous les cinémas hors des circuits de distribution classiques, souvent des cinémas de ce qu'on appelait le tiers-monde avant, du Global South aujourd'hui, donc à savoir du cinéma arabe ou d'Asie du Sud, souvent engagé politiquement, de toutes les époques, mais surtout à partir des années 60. Toujours à Bologne, il est très tard et il fait toujours très chaud. Je suis en compagnie de Théo, nous avons pris quelques bières, je suis en compagnie de Théo qui a joué un rôle très important lors de ce festival aussi, qui va d'abord nous parler d'un film qu'il a beaucoup apprécié mais aussi du rôle qu'il a joué pendant ce festival. Théo, c'est à toi.
Oui, bonsoir à tous, j'ai beaucoup aimé 5 pièces faciles qui passaient en Piazza Maggiore en hommage au réalisateur Bob Rafelson qui est décédé cette année. Par ailleurs, j'ai aussi réalisé le montage et la photographie du documentaire sur Mala Blasetti, imprédutrice de Rome, la fille d'Alessandro Blasetti, grand réalisateur.
Grand réalisateur italien. Comment s'appelle le film, Théo?
Mara Blasetti, storia di una direttrice di produzione.
Mara Blasetti, histoire d'une directrice de production, d'une productrice.
On est vers la fin du festival. On meurt toujours de chaud. Là aujourd'hui, je me suis concentré sur des rétrospectives de films muets. Donc, je sors d'une séance là, d'une sélection de films muets français de 1905. L'intérêt de ces films-là, comme le disait la programmatrice Marianne Levinsky, c'est que ce sont des films qui ont également une ambition d'éducation et d'édification. Que ce soit des films documentaires ou bien des films de fiction qui veulent montrer une forme de réalité. D'ailleurs, la rétrospective des films de 1905 s'appelle Naturalisme et rêve. Alors, le mot naturalisme, c'est un mot compliqué, mais bon, ça veut quand même dire, voilà, il y a une ambition de réalisme ou de représentation de quelque chose qui existe et de faire comprendre aux gens la réalité. Et l'intérêt du programme que je viens de voir, c'était qu'il y avait du coup, ça permettait à un public qui voyait peut-être un film, deux films par an, enfin une séance ou deux de court-métrage par an, parce que c'était tout début du cinéma, de voir des lieux ou des choses qui n'auraient jamais pu voir autrement que via le cinéma. Et donc typiquement, il y a notamment un film produit par Pathé Frères qui s'appelle Au bagne, où on a différentes scènes de la vie d'un bagnard français probablement. De son enfermement, son ferrage, enfin quand on lui met son boulet, également sa tentative d'évasion, l'exécution et tout ça en 9 minutes. C'est assez troublant, violent, dur à regarder. Et je pense que pour un public de 1905, ça a dû être quelque chose d'impressionnant, tout comme ça l'est encore aujourd'hui. Alors je suis en compagnie d'une cinéphile française qui s'appelle Laurane, qui est festivalière pendant toute la durée du festival ici. Et j'ai juste une question pour toi Laurane, est-ce que tu as un film préféré de ce festival?
Oui, alors moi j'ai beaucoup aimé Killer of Sheep de Charles Burnett, qui a été réalisé en 1978 et récemment restauré, d'où sa présence au festival. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il a eu un budget de 10 000 $, pour te dire à quel point c'est un très beau film, je le recommande vraiment.
Je suis en présence de Pim, un cinéphile d'origine hollandaise, mais qui parle également français, donc c'est super pour l'émission de radio. Du coup, j'ai une question pour toi, Pim. Est-ce qu'il y a des films que tu as préférés pendant tout début de festival?
Bah oui, bien sûr. Il y a surtout un film de Dreyer qui m'a beaucoup plu.
Un film de Carl Theodor Dreyer, du coup, un réalisateur danois.
Oui, c'est bien ça, oui, c'est ça. Donc, c'est un film qui s'appelle Master of the House. En français, c'est...
Le maître du logis.
Voilà, oui. Et du coup, c'est un film de 25, si je ne me trompe pas. Et en gros, c'est un... Ben lui, il est plutôt connu pour d'autres films comme Jeanne d'Arc. Mais du coup, ça, c'est plus un film qui m'a un peu étonné parce qu'il a fait un film hors dette aussi. Et plus des films un peu gothiques. Voilà. Et là, pour le coup, il a fait plus un film avec un message assez féministe. Que ça m'a beaucoup plu, en fait, parce qu'on n'attend pas de ça d'un réalisateur qui a fait un film en 25.
Je sors d'une séance de Café Flèche de Rin's Dream, qui est le pseudonyme de Stephen Sayadian. Le film s'appelle Café Flèche. C'est une des séances un peu entre guillemets séances de minuit, série Z, qui sont organisées parfois par le festival. La dernière, je crois qu'on diffusait Gorge Profonde de Gerardo Damiano. Et bien cette année, c'est Café Flèche, donc un film véritablement pornographique, mais qui a aussi un argument, enfin un genre de scénario, si on peut appeler ça comme ça, avec des gens sexuellement éveillés et d'autres qui ne le sont pas et qui vont voir des gens performer dans un genre de cabaret, comme dans L'Ange Bleu de von Sternberg. Vaut mieux ne pas manger avant pour ne pas avoir le ventre retourné. C'est pas très intéressant ni très sensuel. Pour le plaisir, dans le cadre de la rétrospective, Katharine Hepburn, grande actrice américaine de l'âge classique hollywoodien, j'ai vu une copie 35mm de Summertime de David Lean, réalisateur anglais, une comédie technicolor années 50, comédie romantique d'une riche américaine qui va à Venise rencontrer l'amour. Et il faut s'imaginer tous les clichés que les Américains peuvent avoir sur l'Italie et sur Venise, réunis en un seul film d'une heure 40 avec l'italienne lover et l'américaine un peu coincée. C'est charmant, bien qu'un peu désuet. Ce soir, pour la fermeture du festival, on voit pour certains Yi de Edward Yang, qui aura le droit à sa rétrospective également en juillet à Paris intégrale. Voilà, il faut tenir sur la durée parce que voilà, ça demande de l'endurance, mais j'espère finir en beauté avec ce film. Dernier soir toujours, il fait toujours très chaud. J'ai renoncé à la projection de Yi de Edward Yang. Donc je suis à une terrasse avec Zoé, qui est une restauratrice à l'Imaginaire Retrovata, qui est française. Avec Théo, qui fait de la prise d'image lors des événements du festival, notamment en Piazza Maggiore, et également avec Daniela, qui est projectionniste à l'année au Cinéma Lumière, donc le cinéma de la Cinémathèque de Bologne, mais également pendant le festival au Modernissimo, qui est le cinéma souterrain, qui est le grand cinéma de la Cinémathèque qui a rouvert il y a un an, qui est sous la Piazza Maggiore, et elle a projeté des films toute la semaine. Elle est très fatiguée, et puis elle va vous partager un de ses sentiments en italien sur sa projection mémorable de la semaine.
Ciao a tutti, sono Daniela, buongiorno. La mia proiezione preferita di questo festival è stata Santa Notte di Elvira Notari in Piazzetta Pasolini, perché è stata la mia prima proiezione a carbone, faceva un caldo allucinante, ho bevuto il mio primo bicchiere di latte, come tradizione dei proiezionisti a carbone per depurarsi i polmoni, e ho perso completamente la voce.
Grazie mille Daniela, e sapete, e allora, je vais vous traduire en deux secondes parce que c'était passionnant ce qu'a dit Daniela, c'est que sa projection préférée était la projection de A Santa Notte de Elvira Notari, un film muet napolitain de 1922 avec ciné-concert, donc sur une place à l'air libre à Bologne. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était sa première projection avec lampe à charbon, donc qui donne la lampe qui est allumée, qui permet ensuite à l'image d'être projetée sur un écran. Et c'est une lampe qui chauffe et qui est très très chaude, donc elle a perdu sa voix, elle était épuisée et essoufflée et assoiffée, et c'est donc la première fois qu'elle a vécu l'expérience d'un projectionniste des temps anciens, puisqu'elle a dû boire son premier verre de lait comme le faisaient les projectionnistes dans le temps pour nettoyer les poumons.
Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca del sale. ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia. E mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia. E mentre ti bacio, sapore di sale.